les podcasts de Radio Vatican.
C'est la seconde fois cette année que les négociateurs chypriotes se retrouvent pour tenter de parvenir à un accord visant la réunification de leur île. Réunis à Crans-Montana en Suisse depuis mercredi 28 juin, ils se retrouvent en compagnie de l'émissaire spécial de l'ONU et même du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Dès le début, le caractère constructif des négociations a été souligné. En janvier, malgré un échec global, des progrès ont été accomplis sur les questions intérieures. Partage de la gouvernance, restitution des propriétés spoliées, questions économiques, relations avec l'Union européenne et le découpage territorial. Mais la pierre d'achoppement principale demeure celle de la sécurité. Les positions semblent irréconciliables à cause principalement de la présence de troupes turques dans la partie nord de l'île. Malgré ces problèmes, les circonstances n'ont jamais été aussi bonnes et les acteurs chypriotes, onusiens, européens et les pays garants, soit la Grèce, le Royaume-Uni et la Turquie, n'ont jamais été aussi optimistes. C'est ce que confirme Étienne Copeau, chercheur émérite au CNRS, historien et géographe et blogueur, spécialiste du monde turc.
Les deux dirigeants sont tous deux, et c'est une occasion historique, ils sont tous deux partisans de la réconciliation et de la réunification. Ça n'a pas toujours été le cas. Et les deux sociétés, les sociétés civiles des deux parties également. Il y a en ce moment des manifestations pacifistes à Nicosie qui réclament la réconciliation, des chaînes humaines par-delà la zone tampon. Donc il y a un véritable désir. Il y a un désir aussi de l'Union européenne. Et il faut rappeler que le statut de Chypre est très particulier puisque le traité d'indépendance accordait à trois puissances le statut de garanteur. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne, la Turquie et la Grèce ont le droit, le pouvoir d'intervenir dans les affaires chypriotes. Alors parmi ces trois garanteurs, deux sont partisans absolument de la réunification, c'est le Royaume-Uni et la Grèce, et au contraire, la Turquie traîne les pieds et impose des conditions qui sont inacceptables pour les autres parties.
Le fait qu'il y ait plusieurs acteurs dans ces négociations, la Turquie, la Grèce, le Royaume-Uni, est-ce que ce n'est pas finalement un obstacle, en tout cas pour parvenir à un accord, puisqu'on multiplie les voix au chapitre?
Oui, de tout temps, depuis que la question chypriote existe, c'est-à-dire depuis les années 50, c'est justement le fait que d'autres puissances aient mis leur nez et leurs pattes dans la société et dans les affaires politiques de l'île, et c'est ça qui cause le problème, c'est-à-dire essentiellement le nationalisme turc et le nationalisme grec. Chypre était une colonie britannique jusqu'en 1960, donc ça fait une troisième puissance qui est impliquée, qui a des bases, il faut le rappeler aussi. Et le fait que Chypre fasse partie de l'Union européenne maintenant est une sorte de garantie aussi vers l'unification et la réconciliation, mais l'Union européenne n'a pas beaucoup de pouvoir vis-à-vis de la Turquie pour la persuader de, au moins de réduire ses troupes.
Il y a une élection présidentielle dans la partie grecque de Chypre l'année prochaine, en février. La campagne devrait commencer à l'automne prochain. Est-ce que ça ne va pas pousser les négociateurs justement à un peu accélérer et à finalement parvenir à un accord?
C'est dans la balance. Il y a deux éléments qui permettront peut-être de faire avancer les choses. Celui que vous évoquez, les élections dans la partie sud. Et d'autre part, l'ONU menace, alors je ne sais pas si ça doit être pris au sérieux, mais enfin, l'ONU menace de retirer ses casques bleus si les négociations échouent. Ça peut être un moyen de pression également.
Est-ce qu'à chaque fois on repart à zéro ou bien il y a tout de même des avancées qui sont obtenues et qui sont conservées d'une négociation à l'autre?
On ne repart pas à zéro parce que les dirigeants, les négociateurs se connaissent de mieux en mieux. On avance dans les négociations, notamment dans la définition de ce qu'on appelle les quatre libertés qui seraient applicables à Chypre comme dans le reste de l'Europe, c'est-à-dire la liberté de circulation des capitaux, des biens, des services et de la main-d'œuvre. Ça, c'est un point très important. Il y a un point sur lequel on n'avance pas beaucoup, c'est la question de l'immobilier, des propriétés immobilières, puisque les 200 000 chypriotes grecs ont été expulsés de chez eux en 1974 par l'armée turque, et donc ils ont tout perdu. La question aussi de la répartition des pouvoirs, si l'île est réunifiée, quels seront les pouvoirs de l'une et l'autre communauté, comment seront-elles représentées? Alors, tout ceci piétine, disons. Ce qui avance, c'est sur le plan psychologique, sur le plan moral, que les négociateurs se connaissent de mieux en mieux et connaissent de mieux en mieux de façon de plus en plus approfondie leurs exigences. Mais l'une des conditions mises à la négociation, c'est que ce sera tout ou rien. C'est-à-dire qu'aucun point, aucun chapitre des négociations ne sera adopté isolément. Donc ça, c'est une exigence qui est compréhensible, mais en même temps, c'est un obstacle parce que dans cette négociation, on ne peut pas avancer pas à pas, chapitre par chapitre. Il faudra que tous les points soient acceptés. 4 chapitres de négociation.
Quid de la question notamment des disparus?
Il y a eu en 1974, suite à l'intervention turque, 1600 personnes qui ont disparu, qui ont été prisonniers de guerre par les Turcs, qui ont été emprisonnés ou tués. Ils sont probablement tous morts, probablement enterrés dans des fosses communes. On en a découvert quelques-unes. Et il y a des associations de société civile qui travaillent sur ces questions-là. C'est un très fort point d'achoppement parce que la Turquie ne veut rien dire sur ces morts. Et puis sur le plan politique, il faudrait que les deux communautés, les deux pouvoirs politiques reconnaissent leur tort, reconnaissent l'histoire. Et il y a eu, au cours des années 60, 50, 60 et encore en 74, des massacres, des exactions terribles, des assassinats. Des crimes contre l'humanité même, mais il faudrait que les dirigeants reconnaissent tout ce qui s'est passé, ce qui n'est pas le cas. Par exemple, Diyenis Akritas, qui était le chef de l'EOKA, le chef des bandes nationalistes, responsable en grande partie du désordre chypriote, mais une grande avenue en son nom à Nicosie. Cela prouve que les deux communautés ne font pas face, officiellement en tout cas, à leur histoire.
Un entretien réalisé par Xavier Sartre.